Priorité Santé avec Suno Assurance qui vous accompagne où que vous soyez pour que 2020 soit une excellente année. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. La fatigue constitue un motif fréquent de consultation médicale. Mais c'est ce que nous allons voir au cours de cette émission. Derrière ce mot, derrière cette plainte fréquente, peuvent se cacher des réalités très différentes. Fatigue musculaire après un effort intense, fatigue psychique associée à des déséquilibres, des carences lors de périodes de changements physiologiques intenses, comme par exemple la grossesse, fatigue associée au mode de vie qu'il faut distinguer du sentiment de lassitude ou d'une manifestation liée à une maladie, pathologie virale, bactérienne, dérèglement hormonal ou affection chronique. Alors pour identifier la nature de cette fatigue, il faut donc faire le point sur les rythmes de sommeil, présence d'autres symptômes, des changements par exemple survenus dans la vie personnelle, comprendre sa fatigue et tenir compte de sa durée, car derrière cette plainte, on l'a dit fréquente, peuvent se profiler parfois certaines maladies assez complexes à diagnostiquer. S'arrêter donc pour analyser la situation, le cas échéant apporter certains changements dans l'organisation du quotidien, se faire aider, si besoin, par un professionnel de santé ou praticien, et pourquoi pas adopter de nouvelles habitudes, une petite sieste, ça fait du bien, lutter contre la fatigue en s'accordant davantage de temps pour soi, réapprendre à s'écouter. Fatigue, asthénie, épuisement, surtout pause, repos réparateur. Comprendre la fatigue y remédie. Avec nous en studio, docteur Adrien Chaboch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin spécialisé en approche globale, hypnothérapeute, praticien au centre de traitement de la douleur et cofondateur du centre Vitruve. Et vous avez co-signé avec Léonard Anthony le livre « Fatigue et si on apprenait vraiment à se reposer » aux éditions Flammarion Versilio. Également avec nous en studio, docteur Mélissa Large, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste et acupunctrice au centre Vitruve à Paris. Et tout à l'heure, on va retrouver en ligne du Burkina Faso le docteur Gloria Bergès d'Amoaliga, médecin généraliste, chef de service des urgences de médecine générale de l'hôpital Chifra à Ouagadougou.
Priorité santé sur RFI.
Dans quelques minutes, on retrouve donc en direct nos invités en studio pour notre thème du jour. Avant cela, en ligne avec nous, professeur Arnaud Fontanet. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour professeur Fontanet, vous êtes donc chef de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur. Avec vous, on évoque bien sûr ce coronavirus qui fait la une des journaux depuis plusieurs jours. On va dans quelques instants évoquer la nature de l'agent pathogène, mais d'abord, si vous le voulez bien, les derniers événements, car les choses évoluent très rapidement. L'Organisation mondiale de la santé a décidé de repousser de 24 heures sa décision pour déterminer si oui ou non il y a urgence de santé publique de portée internationale. Professeur Fontanet, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a besoin de ce délai ?
Alors, je crois qu'il y a une situation contrastée entre, d'une part, ce qui se passe actuellement en Chine, où on a l'impression que l'épidémie s'emballe. Chaque jour, les bilans nous apprennent qu'il y a... On est passé à 600 patients déjà ce matin, c'était la moitié hier. Et à côté de cela, il y a des cas qui sont exportés. On a vu, ça a commencé avec la Thaïlande, puis le Japon, puis la Corée du Sud, les États-Unis, peut-être 7 pays touchés maintenant. Et dans ces circonstances-là, aucune transmission secondaire. C'est-à-dire que quand les patients sont mis bien en isolement, il n'y a pas eu d'épidémie qui soit déclenchée à partir de ces patients. Et c'est vraiment cette situation qu'on cherche à comprendre pour savoir si ce qui est en train de se passer représente vraiment une menace à l'échelle planétaire. Donc l'OMS demande un délai pour retravailler avec nos collègues chinois sur... une meilleure compréhension de la situation épidémiologique en Chine et du potentiel vraiment pandémique de cette nouvelle affection.
Alors on va justement revenir sur la notion de nouveauté, mais d'abord la Chine. La mesure nationale a choisi de placer en quarantaine la ville épicentre de l'épidémie, Wuhan. 11 millions d'habitants, transport à l'arrêt, juste avant les congés du Nouvel An chinois, une période où les Chinois bougent énormément sur le territoire. Alors face à ce type de virus, la quarantaine, d'après vous, professeur Fontanet, c'est un choix qui s'impose aux autorités ?
Alors là aussi, on a besoin de comprendre et d'avoir plus de données pourquoi une mesure aussi radicale a été proposée alors qu'on parle de quelques centaines de patients et une dizaine de morts. Donc il y a vraiment le besoin de reprendre avec les autorités chinoises le bilan pour savoir l'étendue de l'épidémie. Concernant, on se comprend bien que l'épicentre est à Wuhan. Les estimations récentes de nos collègues du Imperial College à Londres, c'est qu'il y aurait 4000 patients dans la ville. Ce qui est important de savoir, c'est est-ce qu'il n'y a pas déjà d'autres foyers qui se sont allumés dans d'autres villes chinoises, parce qu'à ce moment-là, isoler une ville si l'épidémie se répand ailleurs a peu d'intérêt. En revanche, si l'épicentre est réellement vraiment concentré sur Wuhan, si les autres foyers ne se sont pas trop développés à l'extérieur, adopter des mesures contraignantes pour limiter la circulation des individus peut avoir un impact sur l'épidémie.
Alors on revient justement sur les symptômes. Le virus entraîne un syndrome respiratoire pneumopathie. Quand on parle de nouveau virus, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut simplement dire que c'était un virus qui n'avait jamais été identifié chez l'homme. Et on sait qu'il y a 6 coronavirus capables de donner des manifestations cliniques chez les hommes. Ce sont des infections respiratoires, bénignes comme par exemple le rhume pour 2 coronavirus, plus sévères comme des pneumopathies pour le coronavirus du SRAS et puis le MERS, vous savez, ce cousin du Moyen-Orient qui circule dans les pays du Golfe et où le dromadaire infecte les patients. Donc là, c'est un 7e coronavirus, et quand on regarde la séquence génétique, elle est unique par rapport à ces autres coronavirus connus, elle se rapproche du coronavirus du SRAS, elle lui est à peu près à 80% identique.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à l'œuvre dans des laboratoires de recherche et que les connaissances évoluent au fil des jours ?
Les connaissances évoluent très vite. Il faut voir que par rapport à ce qu'on a connu déjà il y a 18 ans avec l'épidémie de SRAS, l'information circule beaucoup plus vite. La séquence génétique de ce coronavirus a été mise en ligne moins d'un mois après les premiers symptômes. 15 décembre, premiers symptômes dans un marché de Wuhan. Le 10 janvier, la séquence était en ligne. Alors qu'est-ce que ça veut dire que la séquence génétique est en ligne ? La première chose, c'est qu'on est capable de faire des tests diagnostiques. C'est très important pour le contrôle de l'épidémie parce qu'il faut que les pays puissent s'équiper et tester des personnes qui arriveraient de Chine et qui développent des symptômes respiratoires. Et ça, c'est en train de se mettre en place un petit peu partout. Et puis, il y a un travail d'analyse de la séquence du virus pour essayer de comprendre même sa conformation et sa capacité, par exemple, à utiliser des récepteurs cellulaires. Donc, c'est des choses un petit peu techniques, mais qui nous permettent de mieux comprendre ensuite la dynamique de l'épidémie si ce virus est vraiment bien capable d'affecter les cellules humaines.
En tout cas, professeur Fontanet, est-ce qu'on peut dire qu'il est trop tôt pour avoir des indications en termes de létalité, la mortalité par rapport au nombre de personnes contaminées ?
Alors c'est un des bilans qui évolue le plus vite, c'est-à-dire que il y a une semaine, on était sur des estimations faibles de l'ordre de 1 pour 1000, une personne décédée pour 1000 personnes estimées, parce que c'était la modélisation qui estimait le dénominateur, les cas déclarés étaient peu nombreux. Et puis on voit récemment le nombre de décédés qui s'accroît rapidement et de personnes en état considéré comme sévère qui s'accroît rapidement. Mmh. Donc je pense qu'il est vraiment prématuré pour essayer d'avoir une estimation fiable de la mortalité. Elle semble inférieure à celle qu'on a connue avec le coronavirus du SRAS, mais ces chiffres évoluent vraiment très vite tous les jours.
Comme on dit, c'est un peu une formule consacrée, mais pour le coup, c'est vrai. Donc, affaire à suivre. Merci infiniment pour toutes ces précisions, professeur Fontanet. Je rappelle que vous êtes chef de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur. Donc, dernier bilan de cette épidémie en Chine qui affecterait près de 600 personnes avec 17 décès recensés à ce jour. On revient au thème de l'émission Priorité Santé, la fatigue, fatigue au pluriel. Et derrière ce mot, les médecins décèlent souvent des réalités très différentes, très variées. Docteur Adrien Chaboch, première chose, on va mettre de côté ce qu'on appellerait tout simplement la bonne fatigue.
C'est justement sur ça qu'on va désigner ce qui relève de la plainte et de la maladie, de ce qui relève d'une fatigue normale. C'est justement la récupération. Récupération, si on se repose, normalement on récupère. À ce moment-là, la personne ne va pas se plaindre de fatigue. Dès lors qu'il n'y a pas cet état de récupération, qu'on sent qu'il y a un manque, un delta, une carence, qu'on n'a pas recouvert ses facultés, qu'elles soient physiques ou mentales, là, la personne va ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on va traduire ça sous la forme d'une plainte. Je suis fatigué, ce qu'on appelle en médecine générale la plainte fatigue. et vous rappeliez que c'était très très présent. Effectivement, ça correspond, la plainte fatigue, en médecine générale, environ 20% des consultations.
Alors pourquoi ? Parce que le médecin le sollicite, fait partie de son questionnaire, il va dire « est-ce que vous vous sentez fatigué en ce moment ?» ou « est-ce que c'est plutôt spontané ?» D'ailleurs, est-ce que c'est important de voir la différence quand la plainte arrive directement de la part de celle ou de celui qui vient en consultation, ou si c'est vous qui allez la chercher, la solliciter ?
Il faut justement départager cette dynamique, parce que alors évidemment, si le patient vient en disant « je suis épuisé, je ne me lève pas, je n'y arrive pas », bon, là, il faut avoir des réflexes que tous les médecins ont en tête, c'est de chercher des maladies graves, sévères, récentes, émergentes, avec des points cardinaux, la fatigue, l'amaigrissement, la fièvre, notamment en Afrique, il faut se méfier effectivement des parasites aussi, qui peuvent entraîner ces états de fatigue. Ça, on va dire, c'est quand la plainte est première. Mais ça peut être second. Et je dirais, ça peut être doublement second. Soit c'est effectivement dans l'entretien du médecin, on va aller chercher cet état de fatigue, parce que c'est un retentissement sur la qualité de vie du patient, qu'il peut omettre. Et ça permet d'explorer effectivement ce que j'appelle le panorama du patient, le paysage du patient, c'est-à-dire les données aussi familiales, professionnelles, personnelles, d'activité physique, etc. Bon. Mais ça peut être aussi un peu plus détourné, on va dire, c'est-à-dire la personne qui va venir voir un médecin qui ne se sent pas bien. Il faut bien qu'elle traduise cela dans un vocabulaire, dans des mots qui s'adressent au médecin et que le médecin va entendre. Parce que quelqu'un qui souffre, il a d'abord besoin d'être écouté, entendu, reconnu dans sa fatigue notamment. Et alors la fatigue peut être un bon prétexte, un motif, parce que voilà, c'est un symptôme, on peut à la fois le caractériser,
c'est
et en même
temps l'expression d'un malaise.
Voilà, c'est suffisamment large pour ouvrir une porte.
Docteur Mélissa Large, question assez proche. Hein. Comment est-ce que vous cernez la nature de la fatigue des patients qui viennent vous consulter ?
Donc de la même manière, on va faire la différence entre la fatigue symptôme et la fatigue syndrome. Donc on commence de toute façon la consultation qui va être longue, on le sait, quelqu'un qui vient pour une fatigue. Il va falloir débroussailler, il va falloir analyser l'environnement du patient, son mode de fonctionnement, ses habitudes alimentaires, physiques, son travail, son niveau moral, émotionnel, son environnement, son entourage familial, personnel, sa manière de réagir à des événements. Et de fait, on va orienter au fur et à mesure de l'interrogatoire les questions vers des thématiques qui peuvent paraître personnelles aux patients, mais qui sont importantes pour le médecin afin de pouvoir trouver une origine et orienter vers des examens complémentaires éventuellement.
Mais il y a certaines évidences, il y a des personnes qui arrivent en consultation, docteur Chaboch, qui peuvent faire état d'une cadence, d'un rythme infernal. Ils arrivent finalement en état d'épuisement et puis ils se plaignent, comment est-ce que je pourrais être moins fatigué ? Comment vous faites justement quand les personnes finalement ont énoncé tout ce qui explique la fatigue rationnelle et qu'ils vous demandent à vous médecin un médicament, une solution miracle pour arrêter d'être fatigué ? Comment on fait ?
D'une part, ce qui est assez prodigieux dans la société actuelle et aussi à l'international, c'est que parfois avoir du bon sens est vécu comme un remède miracle. Et ça, c'est à la fois effrayant, parce qu'on se dit, mais on en est là, et à la fois, on rappelle des mesures, je dirais, d'hygiène et d'éducation de la santé qui sont absolument normales.
Oui, mais ces personnes ont besoin de l'entendre.
Absolument, parce que de rappeler à quelqu'un qui arrive, qui est épuisé, il y a cette légère blague qui dit « bon, demain, réunion à 6h du matin, ah génial, j'ai le temps de passer à la salle de sport avant ». Bon, c'est démonstratif d'un phénomène dans notre société d'emballement complet. Donc de rappeler « mais oui, mais vous dormez combien de temps ?»« Oh, 4 à 6h ». Ben oui, mais c'est pas assez, monsieur ou madame.
Hein. Alors qu'on voit dans des études récentes que le temps de sommeil des Français diminue toujours plus.
Oui, toujours plus.
Avec environ 7 heures de moyenne, qui est vraiment la limite absolue.
Oui. Une bonne santé, c'est entre 7 et 9 heures, parce qu'il y a des profils, évidemment, de personnes. Il y a des gens qui sont des courts dormeurs, des gens des longs dormeurs. Mais en moyenne, c'est entre 7 et, on va dire, 8, 9 heures. 9 heures, c'est un petit peu optimiste, on va dire, mais descendre en dessous de 7 heures régulièrement, ça crée quand même un manque dans la plus grande majorité des personnes.
Alors, formation généraliste pour les deux médecins qui sont aujourd'hui avec nous, mais avec des spécialités, des pratiques spécifiques. Je vais me tourner vers vous, docteur Mélissa Large. Vous, c'est donc l'acupuncture. Comment comprendre, parce que déjà, l'acupuncture, quand on n'est pas familier, c'est pas évident, la compréhension entre le geste et l'effet. Comment expliquer comment justement cette acupuncture agit au niveau de la fatigue?
On a des conceptions qui sont un peu différentes, évidemment, en Orient qu'en Occident. D'un point de vue, on va dire, rationnel, physique, l'acupuncture, ça a des effets au niveau biochimique, de la cascade des réactions de neuromédiateurs qui vont arriver à l'insertion de l'aiguille. Également, on a des effets électromagnétiques ou électriques qui modifient le champ électromagnétique des cellules du corps. Donc ça, c'est le côté étude scientifique qui a été démontrée, qui nous a permis de montrer ces effets objectifs de l'acupuncture. D'un point de vue oriental, qui est peut-être un peu plus difficile à comprendre pour nous, on va agir sur la circulation de l'information au niveau du corps. Donc au travers des méridiens, on va rétablir cette circulation optimale qui est brisée dans le cas de la maladie et en l'occurrence de la fatigue. Donc dans l'acception, par exemple, oriental, on va rétablir un équilibre yin-yang, veille-sommeil, intérieur-extérieur.
On choisit les endroits où intervenir, on va dire trivialement, ou piquer, en fonction du récit de la fatigue qui aura été fait avant. Comment ça se passe? La séance, comment ça se déroule?
Alors, donc, comme je vous le disais précédemment, il y a l'interrogatoire qui va nous permettre de cerner quelques déficiences au niveau des énergies et des méridiens, puisque chaque méridien peut être relié à un sentiment ou une émotion. Également, certains points sont connus dans les traités anciens pour certains types de déficits ou de pathologies. Donc ces points-là, on sait qu'on va les utiliser. Et c'est toujours quelque chose d'adapté à la personne et de modulable. Je ne ferai jamais les mêmes points pour deux patients qui viennent avec la même plainte.
Et en même, du côté des résultats, là aussi, c'est singulier en fonction des individus sur le temps qu'il faut pour rétablir, comme vous le disiez, ces équilibres.
On va dire que de manière empirique, les effets immédiats sont à 90-100% des patients qui ressentent un vrai changement à la fin de la séance. Sur le moyen long terme, effectivement, après, ça peut varier, puisque j'ai des patients qui auront besoin uniquement de deux séances, et puis j'ai des patients qui vont mettre un peu plus de temps à répondre, mais ça dépendra aussi de la nature et de la profondeur de la fatigue.
Docteur Adrien Chaboch, même question, c'est difficile d'aller vite quand c'est toute une spécialité qui est en cause. L'hypnose, l'hypnothérapie, hypnose médicale et fatigue, ça marche comment ?
Ça marche bien parce que l'hypnose, c'est on traduit par hypnose un processus d'induction d'un état neurologique qui a été documenté, qui est de plus en plus documenté depuis les années 90, même s'il reste très mystérieux. Mais de ce que l'on en sait, de ce que l'on en voit, c'est un état spécifique, spécial dans le cerveau, qui n'est pas spécifique à l'hypnose, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres pratiques, comme la méditation, aussi l'acupuncture, quand il y a un état de transe ou un état d'absorption profond. Ces effets sur le cerveau entraînent une cascade de réactions dans le corps. Et ces réactions-là sont très reposantes. Pourquoi ? Parce qu'on va observer une modulation du système automatique végétatif du corps. La tension artérielle va se réguler, la fréquence cardiaque va diminuer, il y a des relâchements musculaires, même des muscles qu'on ne contrôle pas volontairement. Donc souvent, pendant les consultations d'hypnose, j'entends un glou-glou du ventre du patient qui m'indique bien que là, il y a un vrai relâchement profond. Et ça, évidemment, si on prend juste la vignette des troubles fonctionnels intestinaux, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et ça régénère le corps, il y a vraiment un état de repos assez proche aussi de ce qu'on peut lier avec la sieste, pour en revenir à ça. Sur 20 minutes de sieste, 20 minutes d'auto-hypnose vont avoir des effets vraiment de récupération.
Alors on va tout de suite donner la parole à nos auditrices et à nos auditeurs avec toutes leurs questions. On part d'abord pour la République démocratique du Congo, pour Bukavu, avec Josué en ligne. Josué, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à toute l'équipe.
Allez-y, posez votre question, Josué.
Oui, moi je travaille pour une maison de gardiennage. Mmh. Et c'est là, je suis obligé de travailler quatre fois, donc quatre nuits par semaine. Mmh. Raison pour laquelle parfois je me sens très fatigué. Et puis, parfois, j'aimais ça aussi très énervé. Raison pour laquelle j'ai voulu savoir comment gérer cette situation.
Vous travaillez tantôt la nuit, tantôt le jour, Josué, ou toujours la nuit?
Donc, je travaille 4 nuits par semaine.
4 nuits. Et justement, entre ces moments de travail, vous avez des pauses régulières? Comment vous faites pour reprendre des forces? Votre sommeil, il s'organise comment?
Je travaille 8 heures. Donc, 4 fois pendant la journée et puis 4 fois la nuit.
Mmh. Donc, vous alternez les travails de jour et de nuit, les moments de travail de jour et de nuit. C'est difficile, hein, quand on a des rythmes comme ça, des cycles décalés, docteur Chaboch, de retrouver une rythmique et de reprendre des forces.
C'est très difficile pour vous, Josué, parce qu'effectivement, vous vivez un double décalage. D'une part, vous inversez votre cycle jour-nuit, ce qui engendre une fatigue importante physiologique, parce que le corps n'est pas fait pour travailler la nuit, mais plutôt pour se reposer. Mais on est dans une société où il y a des obligations. Comme vous l'avez dit, vous pouvez pas ne pas travailler. Et le deuxième cause de fatigue, c'est que vous êtes en décalage horaire, en jet lag, entre guillemets, sans voyager, mais en faisant beaucoup de voyages dans votre corps et dans votre esprit. 12 heures quasiment de décalage tous les 4 jours, c'est énorme. Alors peut-être que quelques petits conseils qui pourraient éventuellement vous aider, ça serait de repérer les zones de jonction, c'est-à-dire les zones qui restent toujours à peu près les mêmes entre les moments de changement de rythme de travail. Parce que plus vous pourrez avoir des moments de sommeil fixes et réguliers malgré vos horaires changeants, plus ça pourra aider votre corps à profiter de manière optimale de ce moment qui va devenir une habitude et un rituel. Et ça, c'est très important.
Ça veut dire que le corps doit comprendre quand il doit se mettre au repos à horaire fixe.
Exactement. Notre corps aime pas trop tout ce qui change trop vite tout le temps. Il a besoin de repères et d'avoir des rituels, hein, des rituels de coucher, des rituels d'horaire, hein, comme on fait avec les enfants, à coucher à heure fixe. Ça structure et ça repose mieux.
Tout à l'heure, vous parliez de la sieste en quelques mots, docteur Chaboch. Est-ce que pour Josué, ça peut être aussi des moments, on va pas dire un exercice parce que ça fait encore travail, mais un moment privilégié pour se reconstituer?
Oui, je dirais même une chance pour vous, Josué, un moment de liberté, un moment pas de travail, effectivement, comme le dit Caroline, sinon ça remet une pression. Mais au contraire, ouf, on peut souffler, on peut faire rien pendant 20 minutes, 30 minutes, vous êtes off, vous vous posez, vous méditez un petit peu, vous vous laissez balader dans vos pensées et vous entrerez naturellement dans des phases de sommeil.
Josué, voilà ces conseils du docteur Chaboch. Je me méfie de vous, docteur Chaboch, parce que quand vous parlez doucement comme ça, j'ai peur moi-même de partir et de disparaître de ce micro. Mais on va rester vif, je garde l'œil ouvert. On part pour le Cameroun, pour Yaoundé. Armand est avec nous. Armand, bonjour.
Bonjour.
On est à votre écoute, allez-y.
Merci déjà pour l'émission. Mm-hmm. Mon problème particulier est le suivant. C'est une combinaison entre fatigue et repas. Donc, généralement, quand je mange, que ce soit au petit déjeuner ou bien à midi ou bien le soir, juste après, je ressens une fatigue qui demande à ce que je me repose un tout petit peu. Ce qui fait que si je suis à la maison et que je dois passer peut-être toute la journée à la maison, c'est clair qu'après avoir mangé, je vais carrément somnoler pendant 15 à 20 minutes. Mmh. Et si je suis en pleine activité, je suis obligé de développer des stratégies pour rester éveillé pendant les 15 ou 20 minutes qui suivent le repas. Mmh. Donc, je ne sais pas comment cela peut s'expliquer.
Moi, j'ai une question à vous poser, Armand. On comprend bien, quand vous êtes au travail, ça peut poser des problèmes. Mais en quoi ça vous dérange, quand vous êtes à la maison tranquillement, de vous arrêter, justement, après le repas, une bonne vingtaine de minutes pour vous reposer? Est-ce que vous culpabilisez quand vous vous reposez?
Non, pas vraiment.
Donc, vous accordez quand même des petites siestes à la maison après le repas?
Quand je n'ai rien à faire.
Ah, vous le faites quand même quand vous n'avez rien à faire. Docteur Chaboch, hein, Armand nous explique simplement qu'il y a des moments où son corps lui dit « repose-toi naturellement ».
Et si simplement on pouvait être librement à l'écoute de ces signaux physiologiques, le moment de la pause prandiale, c'est-à-dire l'après-repas, hein, eh bien il va y avoir une activation du repos physiologique dans le corps. On est disposé, très disposé à faire une sieste qu'on devrait tous faire, parce qu'il y a des hormones, des médiateurs chimiques, le cerveau, la digestion consomme beaucoup d'énergie, donc on va mettre le reste du corps au repos. Le problème qu'a tout à fait identifié Armand, c'est « bah oui, mais j'ai toujours quelque chose à faire en fait ». Alors quand j'ai rien à faire, bah oui, je le fais, mais on pense pas à faire rien, alors que c'est une action, faire rien. C'est une action qui permet d'entrer justement et de favoriser ce sommeil.
Donc Armand, écoutez-vous, c'est vraiment ce qu'on retient de ce témoignage. Écoutez-vous et quand vous en avez l'occasion, faites donc ces petites siestes après le repas. C'est bon pour vous, c'est bon pour votre corps et votre morale. Très bonne journée au Cameroun. On prend tout de suite Rafiat qui est au Bénin, à Parakou. Rafiat, bonjour.
Oui, bonjour Caroline.
Allez-y.
Bonjour tout le monde et bonne année à vous.
C'est très gentil, Rafiat, allez-y.
Ok. Bon, moi, ma question est de savoir, est-ce que le fait de faire une petite sieste de 10 à 15 minutes, quand on est fatigué, peut avoir des conséquences pour le cerveau? Parce que cela m'arrive, et lorsque je suis fatiguée, il me suffit juste de me reposer, et je pose la tête peut-être sur une table, je fais 15 à 20 minutes de sommeil, et je me retrouve plus en forme que si j'avais fait une sieste.
Donc ça vous fait du bien et justement votre question, si vous sentez que ça vous fait du bien, en fait, moi je m'interroge, Rafiat, pourquoi vous vous demandez si ça fait du bien alors que vous le ressentez? Pourquoi?
Bon, juste je m'inquiète parce que souvent c'est dit que pour un grand nombre de temps, on se retrouve, mais moi, banalement c'est 10-15 minutes, je me retrouve plus en forme que si j'avais plus dormi.
Donc, votre inquiétude, elle est liée à quoi précisément?
Elle est liée, je ne sais pas, si cliniquement mon cerveau est à quelque chose ou bien si je risque quelque chose.
Ah, s'il y a des risques associés à la sieste. Docteur Chaboche.
Il y a des conséquences sur le cerveau, toutes positives. Et c'est totalement normal, je vous rassure complètement. En fait, en 20 minutes, on va entrer dans un cycle du sommeil léger, mais très reposant en journée, parce que le corps est disposé à entrer dans cette zone de sommeil. Donc d'une part, on y entre rapidement, et on repose facilement, et après on revient à la surface. En fait, c'est si vous étiez épuisé, vous vous réveillerez pas au bout de 20 minutes, mais plutôt une heure. Et là, on est très fatigué, ce qui veut dire qu'on a une dette de sommeil. Si au bout de 20 minutes, vous vous réveillez et que vous êtes en pleine forme, c'est que vous êtes en bonne santé. Donc je vous encourage à continuer. C'est un très bon indicateur, mais sans culpabilité et en étant rassuré.
Donc il faut continuer à faire la sieste, Rafiat, hein, cette réponse. Si vous vous sentez bien, écoutez-vous encore une fois et reposez-vous. Il y a une question de Facebook de Habib qui est au Cameroun. Quand je suis trop fatiguée, je remarque que j'ai des migraines et des insomnies. Comment l'expliquer?
Et oui, parce que ça, ce sont des conséquences des effets du manque du sommeil qui ont des conséquences sur tout le corps, à la fois sur le corps physique et à la fois sur le corps, entre guillemets, mental, ou en tout cas sur l'esprit, l'appareil psychique. Et notamment, on va diminuer les ressources. Par exemple, quelqu'un qui va être migraineux va augmenter la fréquence des migraines. Alors attention aussi, parce que des migraines au réveil, ça doit être aussi un point d'appel qui peut inviter à consulter le médecin, parce que ça peut être un signe un petit peu caché, un peu indirect, d'un problème de sommeil qu'on appelle l'apnée du sommeil. Et ça, il faut surtout ne pas l'oublier et se faire dépister. C'est un dépistage très simple à faire. Après, toute fatigue va entraîner dans le corps des effets. La digestion est moins bonne, les muscles sont moins forts, le cerveau est moins apte à penser, concentrer, s'activer. Bref, on est à énergie réduite.
Docteur Mélissa Large, est-ce que vous prenez en charge des plaintes ou des maladies, puisque c'est une maladie neurologique, comme la migraine?
Tout à fait.
Avec quel mode, justement, de prise en charge? Vous combinez à la fois, on va dire, la médecine occidentale et votre pratique de l'acupuncture? Comment ça se passe?
C'est exactement ça. En fait, l'avantage d'avoir cette double approche, c'est de pouvoir faire un diagnostic médical occidental, de savoir ce que prend le patient, ses traitements, puisque souvent, ce sont des patients qui ont des traitements lourds pour la migraine, qui sont des forts consommateurs d'antalgiques, donc de connaître ces antalgiques, les effets indésirables, et également de pouvoir les diminuer quand on a des résultats avec l'acupuncture. Donc après, c'est là qu'intervient la deuxième partie de la prise en charge, c'est qu'avec l'acupuncture, on peut agir sur l'origine de ces migraines, sur la fatigue, mais également d'autres types de migraines qu'on peut avoir, c'est-à-dire chez les femmes, la migraine hormonale, par exemple, ou le stress, l'anxiété. Ce sont des des symptômes qui réagissent très bien à l'acupuncture.
Donc ça peut être une indication pour des personnes, on va dire, on en entend souvent, qui ont tout essayé et qui n'ont plus de recours, qui se retrouvent d'ailleurs démunies. Hein,
souvent, les patients viennent quand ils ont tout essayé.
Face à ces très fortes douleurs. On va repartir pour le Cameroun. Douala, c'est Jean qui est avec nous. Jean, bonjour.
Bonjour madame.
On vous écoute Jean, allez-y.
En fait, je m'appelle Jean, j'ai 36 ans, je vis à Douala, au Cameroun.
Oui. Bon.
Il y a quelques temps, j'ai ressenti une grosse fatigue qui m'a amené à prendre quelques jours de congé. Mm-hmm. Bon. En effet, je travaille dans une société de la place où je suis chargé, j'ai de ravitailler les rayons. Mm-hmm. Ah non, bon, je fais pratiquement 5 heures de travail sur les 8. Et après, je vais donner cours. Je donne cours pendant 2 heures.
Donc, excusez-moi de vous interrompre, Jean. Vous cumulez donc 2 emplois. Vous faites en même temps, vous déplacez des poids, vous ravitaillez des entreprises en eau, vous donnez des cours. Et vous, donc, on comprend, vous êtes très fatigué. Vous avez consulté pour cela?
Oui, bon, je suis allé à l'hôpital. Vu que je me sentais plus en forme. Mmh. Donc j'ai décidé de prendre quelques jours de congé. Quand je suis dans allé à l'hôpital, on m'a demandé donc d'observer d'abord ce temps de congé avant de repartir.
Et ça faisait combien de temps que vous n'aviez pas pris de congé, justement? Vous vous rendez compte qu'il a fallu que vous alliez à l'hôpital épuisé pour vous arrêter? Ça faisait combien de temps, justement, que vous n'aviez pas pris de pause pour vous, justement, lutter efficacement contre cette fatigue? Combien de temps?
2 ans.
2 ans.
Oui.
Et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, docteur Chaboch. Cette vie, c'est pas simplement parce que la société nous l'impose, c'est aussi parce que la vie nous l'impose. Il faut tout simplement ramener de l'argent à la maison et qui impose des cadences, on va dire, véritablement infernales à certaines personnes.
Oui, tout à fait. Il y a une observation vraiment dans le champ de psychosocial, hein, de manière internationale, qui observe comme une espèce d'accélération du temps social où tout va plus vite et il faut faire plus et encore plus et encore plus. Et la cadence augmente. Vous avez 2 métiers, en plus différents, un physique, un mental, dans une même journée composée toujours de 24 heures. Ça fait beaucoup. Et les vacances sont absolument indispensables. Les vacances, c'est assez récent. Par exemple, en France, c'est apparu dans les années 30. Hein, ça a commencé par 2 semaines de vacances. Il a fallu attendre les années 80 pour qu'on passe à 5 semaines. Néanmoins, dans l'histoire de la fatigue, il y a toujours eu des moments de fatigue, toujours eu des moments de récupération. Parce que même à l'époque où on cultivait plus nos terres, il y avait des moments où les terres étaient au repos. Et alors, ce qui est assez fantastique, c'est qu'on décharge nos téléphones portables et on prend le temps de les recharger. On laisse parfois nos terres parfois un petit peu se reposer, mais alors nous, comme si on était illimité en batterie. Votre hôpital a eu un très bon réflexe, c'est de vous dire, d'abord, reposez-vous. Si vous vous sentez bien reposé après, c'est que vous manquez de vacances et de repos. Si en revanche, après ces 2 semaines, vous êtes toujours trop fatigué, bon là, il faut faire des examens et des analyses un peu plus approfondies.
Voilà Jean pour cette réponse. Bonne journée à Douala. On prend un dernier auditeur. On retourne en République démocratique du Congo, Lubumbashi. C'est Kevin avec nous et on va voir Kevin avec une question pratique. À vous Kevin.
Bonjour Caroline, bonjour à votre invité et bonne année à tous.
Merci, allez-y Kevin.
Oui, c'est vraiment étonnant ce qui m'arrive. J'ai toujours su que les cafés aident à lutter contre la fatigue. Mais moi, quand je les prends, ça me fatigue plus. Je dors très longtemps pendant la journée. Écoutez, j'aime bien les cafés, mais là, je suis même obligé d'arrêter. Je ne sais pas quoi faire.
Vous en buvez quelle quantité, Kevin?
J'en consomme trop, mais pas plus d'1 litre.
Pas plus d'1 litre. Bon, c'est pas mal, 1 litre quand même, 1 litre de café. Hein. Surtout quand on est habitué. C'est du café fort, c'est du café expresso concentré ou du café, on va dire, à l'américaine qui ressemble plus à du thé qu'à autre chose?
Qui ressemble à du thé, franchement.
Ah, d'accord, c'est du café genre, c'est du café en poudre, non? C'est du café instantané.
Oui.
Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire à Kevin qui se pose des questions sur le rapport entre sa fatigue et sa consommation de café ?
On peut se poser la question si ce n'est pas justement une espèce de cumul et de roue qui tourne trop. C'est-à-dire, vous êtes fatigué, vous prenez du café, ça vous repose. Mais vous êtes toujours fatigué parce que c'est un stimulant. Ça ne vous repose pas, c'est juste ça vous stimule. Donc, on accumule la fatigue, on accumule le café et au bout d'un moment, il y a une inadéquation. On est de plus en plus fatigué et on ne tient qu'au café. Et donc, même si vous dormez bien, 8 heures, c'est vrai que c'est une bonne nuit, mais c'est peut-être pas assez. Alors l'idée, ça serait peut-être de diminuer la consommation de café, d'autant plus que c'est un diurétique. Donc, vous déshydratez. Boire un litre de café, c'est pas comme boire un litre d'eau. Il y a la chaleur, il y a tout le climat qui va aussi accentuer sur ça. Donc, mon invitation ou mon conseil, ça serait diminuer votre quantité de café. Buvez bien, réhydratez-vous, dormez, c'est-à-dire faites un break par rapport à cette consommation pour repartir sur de nouvelles bases saines. Il ne faut pas oublier que le café, ce n'est pas le seul stimulant qu'on peut avoir. Il y a aussi le thé et le guarana aussi, qui est une plante qui est très stimulante, mais qu'on peut utiliser avec plus de calme parce que le café est un peu excitant.
Voilà, Kevin, pour ces conseils. Très bonne journée à vous en République démocratique du Congo. Docteur Mélissa Large, est-ce que un bon temps de votre consultation sert finalement à donner des conseils, je vais dire, de bon sens.
Oui, malheureusement, j'ai envie de dire, puisque ce sont des choses auxquelles les patients ne pensent plus, et c'est le professionnel de santé, le détenteur de l'autorité, entre guillemets, de santé, qui est obligé de rappeler qu'on a besoin de prendre du temps pour soi, de faire un recentrage afin d'être un peu plus efficace, c'est de rétablir ce cycle, entre cet équilibre entre le non-faire et le faire, donc la non-action qui a l'air d'être, dans notre société en tout cas, quelque chose qui n'est pas valorisé, alors qu'en fait on en a besoin pour nos activités et pour retourner vers l'extérieur, donc tout ce qui nous demande notre énergie interne à nous.
Compréhension aussi des différentes périodes de la vie, des différents cycles de la vie. Docteur Adrien Chaboch, par exemple, certains parents qui voient leur ado, ils vont dire « avachi, tu ne fais rien, t'es flemmard, t'es paresseux », mais en fait, un ado qui se repose, c'est tout à fait normal.
C'est tout à fait normal. Vous imaginez, tout au long de la journée, tout ce qu'ils ingèrent en termes d'apprentissage, c'est énorme. Nous, si on était à leur place, on serait mais crevés. Ça, c'est une première chose. D'autre part, quand vous avez votre ado qui fait 1m50 et vous vous retournez quelques mois après qui fait 1m95, vous vous rendez compte de la quantité de calories que ça lui demande pour faire grandir ses os, ses muscles. Bref, c'est épuisant d'être ado. Et puis aussi, il faut savoir que notre sommeil, même si ce n'est pas un organe palpable qu'on peut toucher, c'est un organe vivant, c'est-à-dire qu'il évolue dans le temps. Et à l'adolescence, on n'a pas les mêmes besoins, pas les mêmes rythmes de sommeil. On a besoin d'un temps de sommeil accru. Et malheureusement, pour les profs qui essaient de donner cours, l'ado a un rythme un peu décalé. Il devrait dormir un peu plus longtemps le matin et faire la sieste l'après-midi. Malheureusement, il est en cours, ça le fatigue en plus.
Il y a des évidences aussi à rappeler, hein, notamment pour les femmes enceintes, docteur Chaboch. Le corps, là, alors le bouleversement, il est absolu. Et le repos, eh bien, il est indispensable.
Indispensable. De toute façon, souvent, on n'a pas le choix parce qu'il y a des tels coups de barre quand on est enceinte. Enfin, je ne parle pas pour moi, mais j'ai accompagné quelques femmes enceintes qu'on ne peut pas faire sans. Au bout d'un moment, ça prend et il ne faut pas lutter. Au contraire, c'est une invitation à se retrouver soi-même. Hein, on a parlé de tout ce temps social, cette présence des contraintes professionnelles, les contraintes de la famille. Bah, dormir, c'est un rendez-vous avec soi-même.
Eh bien, tout de suite, on va voir comment ça se passe, hein, cette fatigue au pluriel. On part pour le Burkina Faso.
Priorité santé. Sur RFI.
Et en ligne avec nous, docteur Gloria Bergès-Damoaliga, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Médecin généraliste, chef de service des urgences et de médecine générale de l'hôpital Chifra de Ouagadougou. On parlait tout à l'heure des pressions de la société sur les individus, hein, oui. Les travailleurs, les étudiants. Est-ce que vous diriez vous aussi, docteur Damoaliga, que la fatigue s'est considérée au Burkina comme une forme de faiblesse?
Je dirais oui.
à moitié, parce qu'en effet, la plupart des patients qu'on reçoit, quand ils viennent pour dire qu'ils sont fatigués, c'est qu'ils avouent un peu quelque part un long temps de combat. Parce que généralement, ils gèrent leur fatigue et une fois qu'ils sont devant le médecin, c'est que c'est des appels au secours.
C'est comme Jean tout à l'heure, hein, Jean qui nous appelait de Douala, qui disait 2 ans sans vacances, 2 travail de front, il est vraiment très fatigué, il a fallu arriver jusqu'à l'hôpital. Justement, c'est vous, médecin, qui faites parler à vos patients de leur fatigue, ou ils arrivent et ils sont tellement à bout qu'ils disent « Docteur, je n'en peux plus ».
Généralement, c'est ce qu'on reçoit. Quand je reçois un patient en consultation chez moi, je n'ai même plus besoin d'aller chercher la fatigue. Parce qu'ils sont à bout et ils ont besoin d'aide. Et voilà. Donc, dès qu'ils sont là, on est obligé d'aller au bout. Comme le disaient mes prédécesseurs, il faut pouvoir poser la cause de cette fatigue.
Et quand on pose la cause de cette fatigue, on écarte bien sûr les causes physiques, les maladies. Et vous, particulièrement dans votre centre de soins, dans votre hôpital, docteur Damo Aliga, vous prenez en charge des patients qui ont des pathologies spécifiques qui entraînent de fortes fatigues. On pense bien sûr notamment à la drépanocytose.
Oui, exactement, Caroline, exactement. Le patient drépanocytaire est un patient constamment fatigué parce qu'il ne s'oxygène pas. Ne s'oxygénant pas, il a des difficultés, il n'a pas les mêmes aptitudes que les autres. Et je vois souvent des petits-enfants à l'école qu'on traite de paresseux, tout simplement parce qu'ils ressentent de la fatigue, mais génétique, si vous voulez, parce que ça vient de leur drépanocytose. Pareil pour les patients vivant avec le VIH. Voilà, c'est des groupes spécifiques dont il faut être vraiment à l'écoute par rapport à cet état de fatigue.
Ça veut dire
qui est quand même un fond.
Ça veut dire, par exemple, qu'il faut travailler auprès des parents, auprès des enseignants, pour leur expliquer, si votre enfant se plaint de la fatigue, ne lui dites pas « Allez, mets-toi au travail », mais plutôt « Va te reposer et reviens quand ça ira mieux ».
Exactement, exactement. Le travail se ferait auprès des enseignants, surtout par rapport à la drépanocytose. Oui, et auprès des parents, même s'ils se reposent et qu'ils ne s'en remettent pas, il faudrait demander un avis d'un médecin toujours, parce que cette fatigue permanente chez un enfant, ce n'est pas normal. Un enfant normal doit pouvoir jouer, s'amuser, faire ce qu'il veut. Mais quand il est complètement toujours à l'écart, en Afrique, surtout au Burkina, on parle de drépanocytose, il faut toujours chercher à connaître les troubles au reste de l'enfant.
On va donner la parole, si vous le voulez bien, docteur Bergès Damo Aliga, à une auditrice de RFI. Si vous voulez répondre à sa question, c'est Amina, elle nous appelle de Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Bonjour Amina.
Bonjour.
Allez-y, bonjour. On vous écoute. Allez-y.
Merci. Alors moi j'appelle, j'ai une 50aine d'années, je travaille dans une grande organisation internationale où je ne travaille pas au siège en fait. Donc il y a un grand décalage horaire. Et je me suis prise au jeu depuis 9 ans à suivre justement ce décalage horaire où je fais ma journée en Côte d'Ivoire et après mes journées, je suis sur le fuseau de New York. Donc vous devinerez un peu. Et donc je progressivement me suis prise à ce jeu-là pendant 9 ans. J'avais le fuseau horaire aussi d'Afrique australe, donc 3 heures de décalage, ce qui veut dire que quand il y a une réunion à 9h, moi je suis debout à 6h, je fais ma journée ici en Côte d'Ivoire, et puis je reprends le fuseau de New York, de sorte que, en gros, j'avais 3-4 heures de sommeil par jour. Mmh. Et donc, pendant 9 ans, jusqu'à il y a 3 mois, je suis tombée d'épuisement. Une ultime mission, je n'ai pas pu simplement me rendre à l'aéroport. Donc, hospitalisation, asthénie sévère et anémie qui s'est installée depuis 3 ans. Le fer n'arrive pas du tout à se fixer. Et puis, burn-out. Donc, je suis en arrêt depuis 3 mois. Et je n'arrive pas justement à émerger parce que cette fatigue, je la ressens désormais. Je ne l'ai pas sentie pendant 9 ans. Et justement, c'est intéressant que le docteur nous parle de drépanocytaire parce que j'ai été testée pour cela. Je n'ai pas de drépanocytose, mais j'ai une anémie sévère qui s'est installée, asthénie constante. On est obligé de me faire des perfusions de fer, mais je n'arrive plus du tout à émerger.
Comment est-ce que vous regardez ce que vous avez fait, votre vie, pendant toutes ces années, aujourd'hui que vous êtes à bout, on l'a compris, hein, vous êtes complètement épuisée, Amina, comment vous regardez ça? Est-ce que, finalement, vous vous dites d'une certaine manière, j'ai fait un petit peu n'importe quoi avec mon corps et peut-être aussi avec ma vie?
Absolument, une grosse bêtise.
Est-ce que ça veut dire que vous tournez également vers des spécialistes, des praticiens, on ne va pas dire en santé mentale, mais des psychothérapeutes aujourd'hui pour réfléchir à ce que vous avez fait ou pas?
Absolument, j'ai un suivi en psychothérapie depuis 3 mois.
Et ça vous aide?
Mais pas vraiment, parce que je me sens tirée vers le bas, parce qu'il y a aussi un refus de reconnaître. Mmh. Parce qu'il y avait la culture de la performance, mmh. Et que j'étais vraiment accomplie. Donc, que ceci est plus vu pour moi comme un échec.
En tout cas, on entend bien dans ce témoignage passionnant, Amina. Merci beaucoup pour cet appel, que vous êtes maintenant à un moment pivot. Vous avez compris que ça suffisait, mais maintenant vous êtes dans la reconstruction. Docteur Damo Aliga, on vous retrouve au Burkina. Ce qu'on entend là, c'est que non seulement le corps paye pour ce surmenage, mais aussi le mental.
Exactement. Le mental, les pensées, les émotions, tout paye quand on est fatigué. L'équilibre vient justement de tout ça. L'équilibre physique, l'équilibre mental et émotionnel. Donc quand le physique commence à prendre un coup, c'est un peu un cercle vicieux. Et tout dépend maintenant de nos valeurs, de nos fondements, de nos croyances, de ce à quoi on croit. Voilà. Et donc, pour Madame de la Côte d'Ivoire qui vient d'appeler, en effet, le burn-out n'arrive pas aux personnes faibles. C'est ceux qui se pensent forts et ils peuvent tenir le rythme. C'est ces personnes qui doivent avoir des warnings internes.
Il faut faire attention. Docteur Damo Aliga, vous-même, vous êtes médecin, donc chef de service, beaucoup de boulot à Ouaga. À titre personnel, est-ce que vous vous accordez de temps en temps une petite sieste?
Ah oui, absolument. C'est même indispensable. Et encore merci pour cette émission, parce que moi-même, en la préparant, je me suis remise en cause par rapport à certaines choses. La sieste, ne serait-ce que 20 minutes, elle m'est salutaire. Et comme je le dis, il faut apprendre à connaître ses limites. Les migraines, les insomnies, on n'arrive plus à manger, on maigrit, on ne veut plus rien faire. Tout ça, ce n'est pas à banaliser. Il faut connaître son corps et pouvoir dire, ah tiens, quand j'en arrive là, il faut peut-être que je me fasse une pause pour voir qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Bergès Damo Aliga, de nous avoir accordé du temps. C'était très, très intéressant. On dit souvent aux auditeurs, écoutez-nous. Eh bien, moi, je vous dirais, écoutez-vous. Docteur Adrien Chaboche, vous faites la sieste?
Le plus possible, ou bien je prends des moments vraiment de méditation, de relaxation, parce que quand je vois un certain nombre de patients, je ne fais pas toujours, mais autant que je peux, ouais, c'est vraiment un bonheur de la faire.
Et vous-même, on dit souvent que les médecins sont débordés, les généralistes qui ont trop de patients, docteur Mélissa Large, est-ce que vous vous accordez vous-même, parce que donner des conseils aux autres, c'est bien, mais les suivre soi-même, c'est mieux.
C'est encore mieux.
Est-ce que vous faites la sieste, ou faites la sieste quand?
Quand le besoin se fait ressentir, je n'ai pas de planning de sieste, il y a des jours où je m'en passe, et il y a des jours où je sens que j'en ai besoin. Alors je prends ce temps, ça ne me prend, puisque je commence à avoir un peu l'habitude, que 10-15 minutes, voire moins, mais effectivement, une fois qu'on a pris le pli de la micro-sieste...
On continue et on a du mal à s'en passer. Merci à tous les deux de nous avoir donné du temps et de la réflexion. Docteur Mélissa Large, médecin généraliste acupunctrice à Paris. Et vous, docteur Adrien Chaboche, médecin spécialisé en approche globale et hypnothérapeute. Et priorité santé, oui, moi aussi, je prends mon temps, touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour la fabrique, la prépare, assez tout samaqué. Ophélie Lassen, Victor Hull et Laurence Snow. Demain, parole aux jeunes auditeurs, rappelez-nous, 33 84 22 75 75. Gardez le moral dans un monde en crise. Appelez-nous, à demain.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner où que vous soyez pendant ces 366 jours. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.